La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, lycéens, professeurs, parents. Aujourd'hui, premier jour d'une semaine consacrée à la préparation de l'épreuve du bac de français 2016. Oui, nous allons vous aider. Non, vous n'aurez ensuite aucune excuse pour ne pas décrocher, chers auditeurs de première, une note tout à fait extraordinaire à votre bac de français. Parce que si le reste de l'année, c'est bien d'acquérir des connaissances, de mieux comprendre le monde et de s'ouvrir à la littérature qui compte dans les classes de français, il faut bien avouer que le jour du bac, eh bien, la note a tout de même son importance. Alors justement, se trouve pour vous, dans le studio 108 de la Maison de la Radio, toutes les personnes ressources pour vous aider à affronter l'épreuve tant redoutée. À commencer par Marie-Sandrine Lamoureux, professeure de français au lycée Joliot-Curie de Nanterre, mais également, rien moins, que l'écrivain, poète, essayiste Jean-Michel Maulepoix, dont un extrait du poème « L'instinct du ciel » faisait partie du corpus du bac de français de l'an dernier. Et puis évidemment, nous avons le plaisir d'accueillir une quinzaine d'élèves des classes de seconde, première et terminale du lycée Joliot-Curie, emmenés par Marie-Sandrine Lamoureux. Tous ensemble, nous allons donc parler du bac de français avec, pour chaque émission de cette semaine, l'accent porté sur un genre en particulier. Aujourd'hui la poésie, demain le théâtre, mercredi le roman et jeudi le texte d'argumentation. Tout cela en prévision de l'épreuve finale qui aura lieu, je le rappelle, le 17 juin. Bienvenue à tous dans cette spéciale de la Compagnie des auteurs.
Ce matin, les candidats pour la première série ont composé en français.
La Fontaine, Verlaine, Saint-Exupéry étaient pour eux autant de sujets de méditation.
Eh bien, nous avons voulu, nous, savoir ce que penserait un expert de la plume qui a été aussi professeur. C'est la raison pour laquelle Jean Bouvier a choisi d'interroger Paul Guth, le père de Jeanne Lamince.
Parmi les trois sujets présentés, Verlaine, La Fontaine, Saint-Exupéry, qu'aurait choisi Jeanne Lamince, Paul Guth?
Ah, cher ami, elle n'aurait pas hésité, elle aurait fait comme son père. Elle aurait choisi La Fontaine, sans une seconde d'hésitation.
Et on peut demander pour quelle raison, évidemment.
Oh, j'ai un culte pour La Fontaine. Au point, voyez-vous, je m'entends très bien avec ma femme. Le seul sujet de querelle qui y est entre nous, c'est La Fontaine.
Bonjour Jean-Michel Maulepoix.
Bonjour.
Alors, c'est vous l'expert de la plume et le professeur aujourd'hui?
C'est vous qui l'avez décidé ainsi.
Donc vous voyez, ça fait bien des années qu'on demande à des écrivains de venir ici aider à la correction ou aider à la préparation des épreuves de français.
Oui, mais encore une fois, si j'interviens en tant que poète, je mets des guillemets à ce mot parce qu'on ne l'emploie pas si simplement que ça, c'est en tant qu'ignorant, pour reprendre un titre de Jacotet, c'est-à-dire que je suis moi-même au même rang que ces charmants enfants-là qui m'accompagnent. Je suis quelqu'un qui cherche.
Donc vous êtes en train de dire aux lycéens qui sont là qu'après des années de carrière, après avoir publié des livres, après avoir publié de la poésie, on n'en sait pas plus que quand on a 16, 17, 18 ans?
On en sait peut-être de moins en moins, dans la mesure où, à mesure qu'on avance, tombe un certain nombre d'illusions ou d'idées toutes faites qu'on pouvait avoir dans la tête. Et donc, on se met l'esprit à nu, je crois, de plus en plus, à mesure qu'on travaille, qu'on écrit, qu'on étudie, qu'on lit, qu'on cherche.
Vous étiez un bon élève?
Moyen. En français, j'étais plutôt bon élève, et de bonne heure. Dans l'ensemble, j'étais pas quelqu'un d'extraordinairement travailleur ni appliqué.
Ah bah, je ne sais pas si c'est des conseils qu'il faut donner à tous les lycéens qui sont là. Marie-Sandrine Lamoureux, vous qui êtes professeur d'à peu près tous ces lycéens, pas tous, hein, certains de vos collègues vous ont prêté
Oui, et je les remercie d'ailleurs, mes collègues qui ont en charge les classes de première L et de première S m'ont aimablement prêté des élèves pour cet exercice.
Et on les remercie ainsi évidemment que les élèves qui sont venus ici sous la pluie pour nous rejoindre. Ce que disait à l'instant Jean-Michel Maulpois sur cette idée qu'on peut être écrivain et avoir une scolarité même en littérature qui n'était pas forcément flamboyante. Qu'est-ce que vous, en tant que professeur, ça vous inspire ?
De bonnes choses. Hein. Tout ne se décide pas à l'école, encore heureux, hein, fort heureusement. Le professeur, je sais bien qu'au départ, on le voit comme celui qui sait, celui qui doit savoir, mais ce n'est pas un dictionnaire, c'est plutôt celui qui accompagne. Et en l'occurrence, puisqu'on parle de poésie ce matin, c'est accompagner des élèves dans l'émotion qu'ils ressentent, ne pas tout casser non plus en essayant de trop analyser, laisser intacte cette émotion face au texte.
Et pour le bac, est-ce qu'il faut aussi, quand on est celui qui passe le bac, être en contact avec ses émotions par rapport au texte, ou est-ce qu'il faut essayer d'appliquer le plus possible ce qu'on nous a appris ?
C'est un exercice formel, c'est sûr, mais ce qui distingue une bonne copie d'une autre, c'est le fait justement de pouvoir retrouver, à travers cette réflexion sur la façon dont l'auteur a écrit, retrouver cette émotion, l'enrichir même davantage. On avait au départ une émotion naïve, on ne la comprenait pas trop, on va un petit peu décortiquer de texte, venir à bout de certaines choses concernant le texte, et là l'émotion revient plus forte encore que précédemment.
Clémence, tu es en terminale L. Bonjour.
Bonjour.
Donc tu as passé l'an dernier le bac de français avec plus ou moins de succès, je crois.
Non, pas trop.
donc tu as travaillé sur le texte notamment de Jean-Michel Maulpois. On verra qu'il y avait également d'autres textes. Est-ce que pour toi c'est un exercice ou est-ce qu'il y a aussi une part de plaisir à prendre quand on fait du français? Alors peut-être pas le jour du bac, mais peut-être que quand on prend du plaisir, on est meilleur aussi.
Bah moi je trouve que l'exercice de français c'est aussi une liberté parce que tant qu'on justifie ses choix, on peut toujours le marquer dans la copie. Donc pour moi oui, mais après c'est vrai que on peut pas mettre n'importe quoi dans la copie. Mais il y a une part de liberté.
C'est vrai ça, Marie-Sandrine Lamoureux, tant qu'on justifie ses choix, on peut tout mettre dans une copie ?
Bon, il y a quand même des... Ça reste assez consensuel sur certains aspects. On peut pas mettre n'importe quoi. Mais oui, on peut justifier des choix. On peut... On va chercher des indices dans le texte. On va faire une espèce d'enquête policière avec le texte pour récupérer des indices... de son sens, de ce que l'auteur a bien voulu nous transmettre. Parce qu'un auteur n'écrit pas dans le vide, il destine son texte, il est destiné à être lu, il est destiné à être partagé. Donc ce qu'on essaye de retrouver, même à travers un exercice formel comme celui du baccalauréat, c'est cette émotion, ce partage, l'art, tout simplement.
Et comment on travaille ça ?
Ah, comment on travaille, c'est un petit peu compliqué, hein, dit comme ça. Alors la particularité du bac français, c'est que les élèves le présentent après 2 ans de lycée. Ils n'ont donc que 2 ans et non pas 3 pour préparer cette épreuve. Et puis petit à petit, donc il faut à la fois qu'ils acquièrent des exercices précis, comment on fait une introduction, comment on présente un corpus, comment on problématise un sujet, quelles questions on peut poser, comment on organise sa pensée, se souvenir que c'est tout le temps une démonstration. Donc à la fois ça d'un côté...
C'est-à-dire quoi, une démonstration ?
C'est toujours une démonstration, même si elle est déguisée. Donc dans le sujet dont nous allons parler, on parle d'un dialogue entre 2 personnes, l'une qui défend que le poète nous entraîne au voyage et l'autre qui dit le contraire. On a donc bien 2 argumentations. Même dans un récit, en fait, c'est une sorte d'argumentation déguisée, si j'ose dire, parce que le personnage suit un parcours. Donc on essaie de deviner, de se mettre en enquête. Et puis on a plein de petites astuces pour aller vers cette enquête. La première, évidemment, consiste à lire tout simplement le texte, à essayer de comprendre ce qu'il dégage, de quoi il parle, de quoi il est question. Et après, comment il le dit. Et ce qui fait le talent de l'auteur, ça va être cette façon de le dire qui est unique et qui fait que des textes peuvent être réécrits indéfiniment et ne jamais se ressembler.
Alors on va bientôt entendre justement ces textes qui ont formé le corpus de l'an dernier, dont le vôtre Jean-Michel Maulpois. Qu'est-ce que ça fait quand on apprend que des centaines de milliers de lycéens vont suer sur un texte que vous avez écrit ?
Écoutez, c'est une émotion. C'est une émotion, c'est un encouragement, c'est un honneur, évidemment. J'avoue que j'ai un peu compati aussi, c'est-à-dire je me suis demandé quelle espèce de difficulté ils allaient devoir affronter, surmonter, par quelle couleur allait passer leur tête successivement.
Vous êtes dit que c'était un texte difficile pour eux ?
Sans doute parce qu'il y a un problème de forme peut-être inhabituel dans leur relativement à leurs habitudes. Donc comment allaient-ils prendre cela ? Est-ce qu'ils n'allaient pas être trop vite piégés par certaines images, trop vite focalisés sur un certain nombre d'éléments au détriment des autres ? Est-ce qu'ils allaient pouvoir prendre suffisamment de distance, équilibrer un peu la perception ? Je me suis un peu posé ces questions, bon, de façon sommaire et rapide, mais voilà, j'ai partagé, si l'on peut dire à distance, une partie de leurs inquiétudes, je crois.
Alors Lou, toi qui es en terminale, qui a passé l'an dernier le bac, est-ce que tu peux nous donner les trois textes, nous dire quels sont les quatre textes même qui étaient donnés dans le corpus l'an dernier ?
Alors le premier texte, c'est un texte de Jean-Pierre Clarit de Florian. C'était Le Voyage, extrait des Fables, qui date de 1792. Ensuite, il y avait un poème publié en 1873 dans Œuvres posthumes, qui s'appelle Les Voiles, de Alphonse de Lamartine. Ensuite, il y avait un texte qui date de 2000, donc c'est de Jean-Michel Maulpois, qui est L'Instant du Ciel. Donc c'est la présent. Section 3. Et le dernier texte, c'était L'Horizon, chimérique de Jean de la Ville de Miremont, qui date de 1920, qui a été publié dans un recueil posthume.
Eh bien, on va commencer à les écouter, en commençant avec le texte de Lamartine, qui s'appelle donc Les Voiles.
Quand j'étais jeune et fière et que j'ouvrais mes ailes, les ailes de mon âme à tous les vents des mers, les voiles emportaient ma pensée avec elles, et mes rêves flottaient sur tous les flots amers. Je voyais dans ce vague où l'horizon se noie, surgir tout verdoyant de pampres et de jasmin, des continents de vie et des îles de joie, où la gloire et l'amour m'appelaient de la main. J'enviais chaque nef qui blanchissait l'écume, heureuse d'aspirer au rivage inconnu. Et maintenant, assis au bord du cap qui fume, j'ai traversé ces flots et j'en suis revenue. Et j'aime encore ces mers autrefois tant aimées, non plus comme le chant de mes rêves chéris, mais comme un chant de mort où mes ailes semées, de moi-même partout, me montrent les débris. Cet écueil me brisa, ce bord surgit funeste, ma fortune sombra dans ce calme trompeur. La foudre ici sur moi tomba de l'arc céleste, et chacun de ces flots roule un peu de mon cœur.
Texte lu par Sophie de Lombarès. Jean-Michel Maulpois, c'est un poème que vous aimez ?
Oui, il est très, très typique de Lamartine, avec une petite tonalité baudelairienne, je trouve, vers la fin, là, dans cette espèce de naufrage auquel on assiste en définitive, cette opposition entre les deux moments. Le moment de l'illusion, quand j'étais jeune et fier, et que j'ouvrais mes ailes, et puis maintenant, le maintenant un peu ravagé qui clôt ce texte.
Pourquoi très typique de Lamartine ?
Ah, parce qu'il y a une comment dire, des images et une rhétorique, un art du discours, des qualificatifs qui sont très, très, très datés dans cette époque, dans ce moment romantique que représente Lamartine. Il y a une espèce d'amplitude lyrique aussi qui est celle de Lamartine. Voilà, et on pourrait assez facilement, je crois, le rapprocher d'autres poèmes de l'auteur. Si j'avais eu moi-même à étudier ce texte, je me serais arrêté sur une formule comme « quand j'étais jeune et fier et que j'ouvrais mes ailes ». Bon, c'est le genre de choses sur laquelle il faut trébucher, je crois.
Pourquoi ?
J'ouvrais mes ailes, j'ai pas d'ailes, alors qu'est-ce que ça veut dire « j'ouvrais mes ailes » ? Et je pense qu'il y a des incongruités comme ça qui font la poésie, des choses qu'on aurait tendance à accepter telle quelle et qu'il ne faut évidemment pas accepter telle quelle, sur lesquelles il faut réfléchir et qui commence à amorcer une réflexion, me semble-t-il.
Donc ça, c'est peut-être un premier conseil très simple qu'on pourrait donner, Marie-Sandrine Lamoureux, aux élèves qui nous écoutent. Quand dans un texte, il y a quelque chose qui leur semble incongru, et notamment dans un texte poétique, s'arrêter sur cette formule ?
Oui, s'arrêter sur ces points-là, mais ne pas s'y tenir. Ne pas entrer tout de suite dans la micro-remarque. essayer déjà de voir, en l'occurrence, où est le poète, où et à quel moment, où se situe-t-il, que dit-il. Il est maintenant assis au bord du cap qui fume. Il était auparavant jeune et fier, il ouvrait ses ailes. Donc, pardon pour le plagiat. D'abord, commencer par des remarques simples, comme ça. Où est-il? Où se situe-t-il? Après, qu'est-ce qui nous étonne? Qu'est-ce qui fait que c'est poétique?
Mais qu'est-ce que c'est ce cap qui fume? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il est là, ce personnage?
C'est là, justement, qu'il faut faire un peu appel à son imagination et essayer de se représenter la scène comme le ferait un peintre, comme dans ses tableaux, où on voit des jeunes gens romantiques, avec de grands manteaux noirs, au bord d'un cap, observant la mer, qui fume, justement.
Donc, la première chose à faire, peut-être, quand on lit pour la première fois, quand on est un élève, ce texte-là, c'est d'essayer de repérer la tonalité générale et de comparer la tonalité générale de ce poème-là par rapport aux autres poèmes. C'est ça qu'il faut faire ?
Oui, voir déjà qu'il y a un thème commun. C'est assez facile, là, en l'occurrence, le voyage. Et puis, les petites astuces du sujet, bien lire la consigne. Si on dit comparer, c'est que forcément, il y a des points communs, mais qu'il va aussi y avoir des différences. Et donc, c'est pour ça, essayer de se laisser un petit peu emporter par le texte. Là, on voit bien qu'on a un texte en deux parties, avec cet appel du voyage associé à la jeunesse, magnifique, flamboyant, beau, et puis ce retour vers la vieillesse et une espèce d'allégorie de la vie, du temps qui fuit. Du voyage qui n'est plus, mais qui est toujours désiré. Donc si on repère ça, après on peut aller voir dans un autre texte, relire à plusieurs reprises des textes et voir si ça se retrouve. Ah bah tiens, il est aussi question de voyage. Est-ce que c'est toujours sur la mer? Est-ce que cette fois il va prendre le train ou l'avion?
D'accord, et ben on va essayer de voir justement dans un deuxième texte, cette fois lu par Jean-Michel Maulpois lui-même, votre texte, les trois premiers paragraphes, parce qu'il est un peu plus long que les autres. Et c'est donc, vous allez nous le présenter peut-être avant de le lire.
Oui, c'est un texte qui appartient à un livre de prose poétique. Il n'est pas si simple, déjà, c'est un premier problème, de définir le genre auquel appartient ce texte. Est-ce, on dit poésie, oui, mais c'est une poésie très en prose, malgré tout. C'est une poésie qui est aplatie, d'une certaine façon, un peu autobiographique par moment, narrative à d'autres moments, descriptive, donc qui travaille au bord des délimitations habituelles, si vous voulez, des genres littéraires.
C'est rassurant, ça, pour Clémence, par exemple, en terminale L, qui n'est pas forcément très contente de sa note de l'an dernier, de savoir que le poète et l'auteur du texte dit lui-même que c'est difficile de savoir dans quel genre il faudrait classer ce poème-là.
Oui, je crois que c'est une question qu'on peut poser, par exemple, si on est amené à commenter ce genre de texte, s'intéresser à son appartenance ou non à la poésie, qu'est-ce qu'il inscrit dans la poésie, qu'est-ce qu'il en démarque plus ou moins. Voilà, c'est une des questions qu'on peut poser. Ensuite, il y a une cohérence propre. Là, c'est l'instinct de ciel plutôt que l'instinct du ciel. C'est une formule qui m'a été inspirée par Mallarmé, l'instinct de ciel en chacun de nous. Nous avons tous dans la tête, comme cela, un mouvement qui nous porte vers l'idéalité, vers l'azur, vers le lointain, vers toutes sortes de choses qui sont insaisissables et qui constituent une partie très importante, finalement, de notre existence. L'insaisissable occupe une grande place dans notre existence, si l'on peut dire. Voilà, donc ces petites proses qui sont rassemblées dans ce volume explorent, d'une certaine manière, ce champ-là, cet espace-là. Alors ici, il s'agit d'une espèce de portrait de voyageur désorienté, de voyageur contemporain, je dirais portrait exagéré, portrait qui n'est pas un autoportrait à prendre au premier degré, mais qui évidemment tend à mythifier cette figure, à la construire d'une certaine manière. Alors je peux lire, si vous voulez, les trois premiers paragraphes. Je suis cet homme tout bossué de sacs et de valises qui va et vient dans sa propre vie, avec des départs, des retours, portant au cœur des coups et des bleus plein la tête, avec des cartables de cuir remplis de phrases et des serviettes bourrées de lettres, toujours rêvant de se blottir dans le sac à main d'une femme, Parmi les tubes de rouge à lèvres, les miroirs, les photos d'enfants et les flacons de parfum. Cet homme, hérissé d'antennes, essaie de capter son amour sur les ondes et tend vers lui des fils où il se prend les pieds. Cet homme-là ne sait pas auprès de qui il dormira le soir même, ni en quel sens demain matin s'en ira la vie. Tic-tac de l'encre et du désir. L'existence balance son pendule entre le côté des livres et le côté de l'amour, les tickets d'envol et les longues stations dans la chambre, le dos tourné et les bras ouverts, l'homme immobile et le piéton, celui qui ne croit plus au ciel et celui qui l'espère encore, celui qui fabrique des figures et celui qui veut un visage.
Et pour pouvoir aller plus loin dans la réunion des différents textes, nous allons terminer cette présentation en écoutant le troisième texte, un texte de Jean-Pierre Clarisse de Florian, lu ici aussi par Sophie de Lombarès.
Partir avant le jour à tâtons, sans voir goutte, sans songer seulement à demander sa route. Aller de chute en chute et, se traînant ainsi, faire un tiers du chemin jusqu'à près de midi. Voir sur sa tête alors s'amasser les nuages, dans un sable mouvant précipiter ses pas. Courir, en essuyant orage sur orage, vers un but incertain où l'on n'arrive pas. Détremper vers le soir, chercher une retraite. Arriver, haletant, se coucher, s'endormir. On appelle cela naître, vivre et mourir. La volonté de Dieu soit faite.
Alors, Oumaïra, tu es élève en première L, donc bientôt le bac. Vous avez un petit peu travaillé ce matin, vous êtes venus tous ici au studio 108 une heure avant l'émission, vous êtes distribué les textes, donc vous avez eu le temps de regarder un tout petit peu, évidemment c'est pas beaucoup de temps, mais d'ores et déjà, est-ce que tu vois un petit peu des points communs entre ces textes-là et une façon de répondre à la question commune, donc la question qui est posée et qui est Marie-Sandrine Lamoureux, rappelons-le.
Comparer les conceptions du voyage qui s'expriment dans ces textes.
Voilà, alors avec ce sujet-là, avec ces textes-là, comment tu fais ?
Déjà c'est le même thème. Partout, on va dire, d'un voyage, en quelque sorte, du monde ailleurs.
Comment on fait quand on se retrouve face à le jour de l'examen, face à ces trois textes ? Quelle est la démarche, Marie-Sandrine Lamoureux ?
Si on regarde la démarche formelle de la question de corpus, ce qu'on va demander, c'est de présenter les textes, de voir que, comme tu l'as dit, Oumaïra, c'est bien le même thème, alors que les poètes n'appartiennent pas à la même époque. On a un corpus vraiment qui va du XVIIIe siècle au XXe siècle, un corpus diachronique, et pourtant le même thème les intéresse. Et puis ce voyage nous emmène ailleurs. Comment ? Par quels moyens de transport ? On a plusieurs fois le bateau, donc on va pouvoir organiser sa réponse de cette manière-là. Ce voyage comporte des dangers également, d'après certains auteurs. Donc on peut peut-être faire un deuxième paragraphe dans le développement exprimant ces dangers,
des
ce
dangers
risque.
Des dangers de la tristesse aussi, parfois.
Alors c'est encore
Donc c'est le voyage vu comme n'étant pas forcément positif.
Voilà, c'est encore un troisième point, c'est que le voyage est en même temps une forme d'introspection pour les auteurs, une façon de partir, mais de se trouver soi. Et puis, au retour aussi, que se passe-t-il ? Qu'éprouve-t-on ? Qu'en est-il ? N'a-t-on pas toujours envie de partir ? Et pardon, mais pour répondre tout à l'heure à ce que vous disiez à Monsieur Maulepoix, c'est un poème à partir du moment où l'auteur le décrète. C'est ce que je leur dis toujours à propos de la poésie en prose. Si l'auteur a écrit poème, c'est un poème. Hein. Comme si l'auteur écrit roman, c'est un roman. S'il écrit nouvelle, c'est une nouvelle. On ne va pas se poser des questions à trois pages près, vous voyez. Et même si en même temps, dans le poème en prose, on peut reconnaître un certain nombre de choses. Il y a une circularité du texte. On part dans le texte de M. Maulepoix de la vie, on arrive à l'évocation de la vie. On a un tableau, un paysage, quelque chose qui donne à voir immédiatement. Alors c'est difficile pour les élèves parce qu'ils ont été confrontés au texte très très rapidement. Je vous dirais que c'est bien ce qu'on leur demande dans un mois, hein, mais pour certains d'entre eux.
Mais surtout qu'il y a la panique aussi, il faut faire quoi ? Il faut lire une fois, lire deux fois, lire trois fois, souligner,
oui.
Qu'est-ce qu'il faut chercher
Je
en fait
pense lire attentivement les textes, quitte à les lire plusieurs fois, avoir des couleurs, éventuellement un code à soi, pour souligner. En classe, je leur propose d'avoir des surligneurs, tout bêtement, pour céder des champs lexicaux, repérer des choses, qui s'expriment comment. Est-ce qu'on est à la première personne? Est-ce qu'on est à la troisième personne? Est-ce que le poète se met en scène? Est-ce qu'on est dans quelque chose qu'on voit régulièrement, qui est récurrent en poésie, par exemple? Est-ce qu'on est dans un blason? Là, le thème du voyage, c'est quand même quelque chose qu'on voit très très fréquemment en poésie. C'est pas, y a pas de piège en particulier dans un sujet de bac. On ne cherche pas à piéger les élèves, on cherche à ce qu'ils puissent s'exprimer sur un sujet intéressant qui les concerne. Est-ce que, puis derrière ce mot voyage, qu'est-ce qu'on met? C'est ce qu'on dira tout à l'heure d'ailleurs. Est-ce qu'on met forcément le fait de partir sur un voilier à l'autre bout du monde?
Oui, qu'est-ce que ça veut dire que de voyager? Lou, Terminal L, alors ça s'est passé comment? Quel était ton plan en fait l'an dernier sur cette question commune?
Je m'en souviens plus, mais... Non, je m'en souviens plus. Mais je pense que j'avais fait... comme d'hab, j'avais fait grand 1, les similarités et 2, différences, ou l'inverse, je ne sais plus trop.
Ça, c'est une technique qu'on apprend en cours?
Oui, enfin, si on ne trouve pas de plan, en général, c'est ce qui marche. Donc c'est ce que j'ai fait là, si je m'en souviens.
Et ça a bien fonctionné. Il y a des plans
pour la question de corpus? Non, pas forcément. Mais c'est vrai, ce qui ressemble, ce qui ne ressemble pas. Là, c'est une question ouverte, comparée. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est pareil, ce qui est différent.
Je me rends compte que Marie-Sandrine Lamoureux, on n'a même pas parlé du déroulé exact de l'épreuve. Peut-être que ce serait important de raconter quel est ce déroulé. C'est 4 heures, c'est ça?
4 heures d'épreuve. En effet, c'est important. Il ne faut pas se laisser piéger par le temps. Il y a aussi la gestion du temps qui compte. Alors, ce que je conseille habituellement à mes élèves, déjà, c'est de ne pas partir avec bille en tête, avec... l'esprit occupé par un des sujets. C'est-à-dire de ne pas arriver en se disant « bah tiens, moi je ferai le commentaire quoi qu'il arrive » ou la dissertation. De se laisser le droit de choisir. En général, on leur dit que la
Mais parfois, ils ont plutôt une préférence pour
l'un
ou pour l'autre.
Bien sûr, et ils en ont le droit. Mais il faut quand même s'entraîner aux autres sujets, on ne sait jamais. Le jour du bac, ça peut être embêtant si tout à coup le texte ne nous parle pas et qu'on avait l'habitude de ne prendre que le commentaire. Donc je leur dis de prendre le temps de découvrir le sujet, ce qui peut prendre un quart d'heure pour une première lecture, de lire très attentivement les consignes, de ne pas choisir tout de suite entre invention, dissertation ou commentaire de texte, de faire la question de corpus, si possible, de ne pas y consacrer trop de temps. C'est-à-dire qu'il faut y consacrer une demi-heure ou trois quarts d'heure. Pourquoi? Parce qu'en série générale, elle est sur 4 points, alors que l'autre exercice est sur 16 points. Donc il faut travailler
en table. Donc l'autre exercice est plus important que la question
commune.
Ah bah oui.
Enfin, moi, je préfère consacrer 3 heures sur 16 points et
Donc c'est très court, en fait, la question commune. On répond en quelques...
On répond en... On attend une page, entre une page et 2 pages. 3 pages pour ceux qui vont vite dans leur travail, c'est plutôt 2 pages. Parce que le temps de faire une petite introduction qui présente les textes, qui présente le corpus, l'objet d'étude, de poser la question, de formuler donc sa problématique. Dans la question de corpus, la question c'est la problématique. De proposer un plan, bon là en l'occurrence il est facile, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent. Et puis de faire une réponse argumentée avec une progression du raisonnement, donc des paragraphes qui correspondent aux différentes idées. Qui mélange les exemples, qui mélange les textes, il s'agit bien de comparer, qui prend des citations, et puis après on conclut.
Jean-Michel Maulpois, d'autres axes pour vous sur cette question commune?
Je ne sais pas, peut-être l'aventure et l'expérience. Ce qui me frappe dans les textes qui ont été rassemblés là, c'est qu'il y a pour beaucoup l'idée d'épreuve. soit une opposition déclarée, comme dans le texte de Lamartine, entre une illusion initiale et puis une vérité tardive, enfin une épreuve de vérité en quelque sorte, soit dans le texte de Florian, à travers cette succession d'infinitifs, une espèce de programme qui est quand même celui d'une épreuve, partir avant le jour, à tâtons, aller de chute en chute, se traînant, voir s'amasser les nuages, essuyer des orages, détremper, haletant. Il charge beaucoup cette idée d'épreuve du voyage.
Et le climat aussi, qui est très présent.
Voilà, absolument. Il y a comme l'idée de ce que Baudelaire appellera l'amer savoir du voyage. Hein, il est très présent, cet amer savoir chez Lamartine, mais il est d'une certaine manière déjà en germe, si l'on peut dire, dans le texte de Florian également. Voilà, et puis dans mon propre texte, c'est difficile d'en parler comme ça, je n'ai pas de vérité à administrer à propos de ce texte, mais il y a évidemment une sorte de voyageur désorienté, là encore.
C'est quelque chose que vous avez vu aussi, Clémence, par exemple, ou Lou. Clémence, voilà, ce côté amer
dans le voyage. Oui, il y avait certains textes qui montraient le côté un peu amer du voyage. Je ne sais plus quel texte, mais je m'en rappelle avoir écrit ça dans ma copie.
C'est presque comme si l'existence humaine, en quelque sorte, était condensé ou concentré dans cette expérience plus ou moins imaginaire qui est celle du voyage.
Alors je vous propose, si vous le voulez bien, de faire un petit peu comme dans l'émission normale, puisque là on est dans une spéciale cette semaine, mais d'ordinaire, à cette heure-là sur France Culture, il y a toujours une chronique assurée par des éditorialistes. Et aujourd'hui, elle est assurée par des élèves. Alors d'habitude dans cette émission, quand ce n'est pas une émission spéciale comme cette semaine, à cette heure-là ou à peu près, il y a toujours des éditorialistes de la presse littéraire qui viennent nous parler de ce dont ils parlent dans leur revue ou dans leur magazine. Mais aujourd'hui, nous avons demandé à Cyrine et à Jarre, tout simplement, de présenter un exercice qui est l'un des exercices du bac de français. C'est le récit d'invention. Avant de les écouter, est-ce que vous pouvez nous dire, Marie-Sandrine Lamoureux, un petit peu de quoi il s'agit?
Le sujet proposé, c'était « Deux lycéens confrontent leur point de vue sur le rôle du voyage pour nourrir l'inspiration poétique. L'un estime le voyage indispensable, l'autre lui oppose que l'on peut faire œuvre poétique sans avoir voyagé. Imaginez ce dialogue. » Il s'agissait donc d'un dialogue argumentatif.
C'est un sujet difficile?
C'est un sujet un petit peu complexe parce qu'en réalité, on a une dissertation déguisée. C'est une des formes que peut prendre le sujet d'invention. On peut sinon demander un récit, une description, un dialogue avec une argumentation à l'intérieur. Ça peut prendre beaucoup de formes.
D'ailleurs, Priscilla, toi tu es en première S, tu trouves que parfois le récit d'invention, cet exercice-là, c'est un petit peu trop contraint en fait. On n'invente pas tant qu'on voudrait.
C'est exact, parce que là, normalement, on dit sujet d'invention, on doit inventer par nous-mêmes et non avoir des contraintes, des règles strictes, alors que sur ce sujet, bah, si quand même. Malgré que ça se rapproche quand même de la disserte, bah, on doit faire ça sous un dialogue, alors qu'on pourrait faire, par exemple, là, on doit faire sous un dialogue, alors qu'on pourrait très bien le faire en pièce de théâtre.
C'est vrai ça, Marie-Sandrine Lamoureux. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas plus d'inventivité possible dans le sujet qui est le sujet d'invention?
Je ne sais pas, mais c'est possible aussi, hein. Ça arrive, tout dépend. En même temps, ce sujet, en réalité, les élèves s'y préparent depuis la sixième, depuis le collège. Et l'idée des concepteurs, des sujets de bac français, en ajoutant l'invention, c'était justement de permettre une continuité entre ce que les élèves apprennent au collège et ce qu'ils continuent à apprendre au lycée. Qu'il n'y ait pas une coupure tout à coup, qu'on passe de vous écrivez un texte sur tel sujet à dissertation, le mot qui fâche, vous voyez.
Alors Cyrine Ajar, écoutez, on vous écoute sur ce sujet.
Le débat d'aujourd'hui portera sur le voyage et la poésie. Est-ce qu'un auteur a besoin de voyager pour nourrir son inspiration?
Non, il n'en a pas besoin. Arthur Rimbaud, par exemple, est un grand poète du 19e siècle et pourtant il n'a pas ressenti la nécessité de voyager.
Au contraire, il était coincé avec sa mère et son beau-père à Charleville. Et au lieu de le bloquer dans son écriture, ça l'a au contraire inspiré des poèmes comme « Le bateau ivre ».
Peut-être qu'il n'a pas voyagé, mais il en a ressenti le besoin à plusieurs reprises de s'évader et de prendre large, comme nous le montrent ses nombreuses tentatives de fugue d'ailleurs. C'est au cours d'une de ses escapades qu'il aurait croisé le corps inerte, celui du soldat prussien, ce qui lui inspira son poème « Le dormeur du Val ».
On peut aussi prendre le cas des poètes engagés qui donnent leur avis sur des faits d'actualité sans pour autant voyager aussi. Ils écrivent au péril de leur vie comme Paul Éluard dans Liberté. Il a écrit sur un fait d'actualité, mais il n'a pas pour autant voyagé. Ou sinon, il y a La Fontaine qui écrit plein de morale et des choses qui aident pour la vie. Comme Hélas, on voit tout le temps les petits, on pâtit des sottises des grands. C'est dans Deux taureaux et une grenouille.
D'après moi, le voyage est une source d'inspiration. Il enrichit. Que voir de nouveaux paysages, de nouvelles horizons, de nouvelles personnes, surtout de nouvelles cultures, fait évoluer l'auteur. Baudelaire, lui, au cours d'un voyage à l'île de Bourbon, donc actuelle Réunion, a écrit Parfums exotiques.
Mais ce que je veux dire, c'est que voyager, c'est pas indispensable. Le poète peut aussi choisir de parler de ce qui l'entoure. Par exemple, Ponge, il écrit sur des objets du quotidien, comme le cajot, l'huître, le verre d'eau ou encore le mimosa. Il choisit d'écrire sur son quotidien et je pense que ça touche plus les lecteurs parce qu'ils se sentent concernés.
C'est vrai qu'écrire son quotidien touche les lecteurs car ils se sentent concernés, mais au contraire, certains lecteurs ont tendance à se lasser de leur quotidien et à vouloir du nouveau, donc à l'inverse, cherchent à s'évader à travers des poèmes oniriques, tels que Les voiles de Lamartine.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une obligation de voyager pour écrire. Voyager dans le sens se déplacer physiquement à l'étranger, on peut aussi se déplacer par l'esprit au travers de jeux de mots comme dans les calligrammes d'Apollinaire. Ils nous font rêver à l'aide de mots et sans pour autant se déplacer.
Eh bien, merci à vous deux. Un corrigé, peut-être, Marie-Sandrine Lamoureux.
Oh là là, non. Pourquoi voulez-vous que je corrige?
Parce que ça va aider nos auditeurs.
Un corrigé par rapport à l'écriture d'invention.
Est-ce que ça correspond au sujet? Qu'est-ce qu'on pourrait finalement dire sur ce
alors,
qu'il faudrait ajouter?
Ce qu'on peut rajouter, c'est que dans le sujet d'invention, bien souvent, les élèves oublient qu'ils peuvent faire briller leurs connaissances. Et donc, c'est toujours bienvenu de faire des petites références à des textes qu'on a lus. Et là, en l'occurrence, on avait étudié un parfum exotique de Baudelaire. On avait évoqué l'île de la Réunion et l'inspiration qu'il retrouve à Paris quand il s'allonge auprès de la femme aimée. Et c'est bien de s'en souvenir. Donc c'est bien aussi de se nourrir de ce qu'on a pu étudier pendant l'année. Et là, on va voir aussi que cette écriture d'invention fait parfaitement le lien avec le sujet de dissertation proposé. L'un n'était pas si éloigné que ça de l'autre.
Alors je vois qu'il y a des questions dans notre public de lycéens.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Sana, je suis en terminale L. Et donc l'année dernière, j'ai passé l'épreuve anticipée de français. J'avais choisi le sujet d'invention et je voulais connaître l'avis de Jean-Michel Maulepoix sur ce sujet, à savoir si l'on peut faire œuvre poétique sans avoir voyagé.
Ah.
Je pense, bien sûr, qu'on peut faire œuvre poétique sans avoir voyagé. Il y a des poètes immobiles. Je pense à quelqu'un comme Mallarmé, par exemple, dont toute l'œuvre naît dans une chambre, en quelque sorte. Il y a des tentations de la fuite, hein, fuir là-bas, fuir, je sens que les oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. On entend dans la poésie de Mallarmé un appel au voyage, mais il n'y a pas à proprement parler dans l'expérience de Mallarmé de grands voyages. Très peu, il y allait faire de la yole sur la Seine. La yole, c'est une sorte de barque avec une voile. Voilà, il descendait un peu de la Seine. Mais la sensation peut être évidemment éprouvée dans le quotidien le plus ordinaire, dans la proximité, dans la vie proche, tout simplement. Je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure à propos de Rimbaud. Vous avez posé une vision de Rimbaud prisonnier, coincé avec sa mère et son beau-père à Charleville. Certes, mais il n'a cessé de s'enfuir. D'ailleurs, vous l'avez dit ensuite, hein, il n'a cessé de s'enfuir et avec des éloignements toujours plus marqués. Je veux dire, Rimbaud commence par fuir vers de Charleville vers Charleroi, puis vers Paris, puis vers Londres, puis vers le Harare. Il va toujours plus loin, en même temps que son expérience de la poésie se fait toujours plus aventureuse sur le plan formel. Il risque des types d'écriture toujours plus voyageurs aussi, si l'on peut dire. Bon, mais je referme la parenthèse Rimbaud. Je retiens à propos de Rimbaud cette formule de Verlaine, l'homme aux semelles de vent. C'est un poète en fuite perpétuelle. C'est un poète en mouvement perpétuel. Alors, peu importe qu'il ait été prisonnier, qu'il ait développé dans son imaginaire d'enfant coincé à Charleville ou à Roche, c'était le petit village où sa mère avait une maison, des visions fantasmagoriques qu'il exprime dans le bateau ivre. Après tout, c'est quand même toujours fondamentalement un voyageur. D'autres le sont moins. Moi, je l'ai beaucoup été aussi. J'ai plusieurs livres qui parlent du voyage, mais je crois que le rapport à la langue est différent selon les cas, selon que l'on est ou que l'on n'est pas un voyageur. Le rapport au réel également est différent. L'intensité de l'écriture est différente. La charge d'expérience concrète est différente. Tous ces éléments entrent de manière inégale dans les écritures des uns et des autres.
Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs spécial Bac de français et il nous reste une petite quinzaine de minutes pour aborder le vaste sujet de la dissertation, un des trois exercices proposés chaque année. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est « Pensez-vous que la poésie soit une invitation au voyage ?» Priscilla,
oui.
Première S, est-ce que c'est un sujet difficile ?
Non, pas forcément, parce que les poèmes sont... reflète beaucoup le voyage par rapport déjà au langage qui est, on va dire, plus doux à entendre que un roman fantastique par exemple ou je sais pas, une nouvelle, alors que c'est un peu comme si c'était une chanson, une douce mélodie qui part, surtout quand c'est en prose, moins en prose et plus en vers. Et
alors quand tu te retrouves face à un sujet comme celui-là, comment est-ce que tu fais ? Quelle est ta méthode ?
La plupart du temps, je fais toujours oui et non. La plus grande partie, par exemple là, ça serait plutôt oui. Je la mettrais en dernier parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire et c'est là où on va mieux percevoir le pourquoi.
Ça vous semble une bonne méthode, Marie-Sandrine Lamoureux ?
Ah oui, c'est une bonne méthode, surtout en l'occurrence, parce que le sujet propose une affirmation, une thèse. Donc il nous dit, la poésie est une invitation au voyage, plutôt oui, plutôt non. Et c'est vrai qu'il vaut mieux finir par son point de vue. Mais du coup, exprès, moi je vais proposer l'inverse. l'autre méthode, c'est de comprendre les mots-clés du sujet, hein, la poésie, le voyage. Qu'est-ce qu'on entend par voyage ? Donc, on a vu que c'était au sens propre, un déplacement physique, mais ça peut être aussi au sens figuré, un voyage intérieur ou un voyage au fond des choses, une autre façon de voir, de dire le monde, pour refaire encore référence à Rimbaud et aux lettres du voyant, une autre façon d'exprimer le monde. À ce moment-là, on peut se poser la question, comment peindre le monde? Comment est-ce que la poésie a pour fonction de peindre le monde, de s'en échapper, ou les deux en même temps, ou encore autre chose?
Comment est-ce que vous auriez aimé être préparé avant de recevoir ce sujet-là? Je m'adresse ici au terminal L. Quand vous avez lu ce sujet, quels conseils vous ont été le plus utiles et qu'est-ce qui, dans votre préparation, vous a servi le plus? Ça pose en creux la question de savoir comment on se prépare finalement au bac de français.
Bah, moi, personnellement, j'ai beaucoup lu des annales et j'ai essayé de... Si jamais j'arrivais pas à faire le sujet, je regardais les réponses du sujet et du coup, ça permettait de vraiment cerner ce qu'il faut mettre dans une copie et ce qu'il faut pas mettre pour éviter de faire le hors-sujet.
Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il faut pas mettre?
Bah, moi, pour moi, je pense que dans une dissertation... C'est vrai que, comme a dit Madame Lamoureux, définir les termes importants, c'est bien. Comme ça, ça permet d'éviter au maximum de faire leur sujet. Puis après, il faut aussi avoir peut-être quelques poésies en tête qu'on a étudiées en cours pour avoir des exemples, pour s'appuyer.
Mmh. Voilà. Comme elle parlait, elle évoquait la lecture des annales et puis quelques poésies étudiées. Vraiment, ce sur quoi l'élève peut le plus s'appuyer, c'est sur sa liste de textes qu'il a préparée pour l'oral. Là, il a tout un ensemble de lectures analytiques à sa disposition et tout un ensemble d'activités complémentaires.
Très important de mettre des citations, de montrer qu'on a lu.
Bah, c'est important d'expliquer ces exemples. Vous n'allez pas dire comme chez Baudelaire, point à la ligne, on n'en parle plus. Quoi. C'est... Bon, il faut l'expliquer, l'exemple, sinon il ne sert à rien. Et puis il aide à trouver des idées, à trouver des arguments, parce que certains élèves partent des arguments, d'autres partent des exemples. Donc je pense, alors poésie, voyage, tiens, parfum exotique de Baudelaire, dépaysement, nostalgie parce qu'il n'y est plus, hop, j'ai déjà voyage égale dépaysement, retour de voyage égale nostalgie. Donc je peux partir ou des exemples ou des idées, plus j'en ai mieux c'est. Et pour la lecture des annales, ce que je conseille toujours aux élèves, c'est de lire aussi les corrigés, de pas forcément essayer de les faire sans rien derrière, mais par exemple de refaire la dissertation en remplaçant les exemples proposés par leurs propres exemples. Un exemple d'une œuvre qu'on n'a pas lue, qu'on ne connaît pas, ne nous parle pas. Donc il faut s'approprier le sujet en reprenant ses propres exemples.
Lou, ton expérience là-dessus, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te donne comme conseil? Qu'est-ce qui t'aurait été le plus utile?
Je sais pas trop. Peut-être. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est le commentaire, parce que j'aime bien le commentaire. Mais là, je l'ai pas pris parce que le texte 2 de Lamartine, j'avais pas compris. Donc, j'aurais bien aimé qu'il tombe sur le texte 1, par exemple. Donc, du coup, j'ai dû faire l'invention.
Oui, parce que parfois, on comprend pas le texte aussi, oui. C'est ça.
Mais c'est pour ça que je disais qu'il faut pas partir bille en tête avec l'idée de faire à tout prix le commentaire ou tel autre sujet. Et d'ailleurs, beaucoup d'élèves ne choisissent pas la dissertation parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne pourront pas et qu'ils n'ont pas une culture suffisante. Donc la première chose que je fais avec mes élèves quand ils arrivent en seconde, et je suis pas la seule, j'imagine, c'est de leur faire faire une liste de ce qu'ils ont pu lire. Ils sont convaincus qu'ils n'ont rien lu. Et ils se rendent compte que la liste est interminable. Quand on commence à s'y mettre, évidemment, depuis les histoires qu'on entendait tout petit, on a lu forcément des tas et des tas et des tas de poèmes. Et tout à coup, ils nous reviennent. C'était pas sur mes antisèches, mais tout à coup, je pense aux jeans de Victor Hugo, à l'orientalisme, à cette tentation... d'un ailleurs qui peut aussi représenter une sorte de voyage et qui pourrait être utile dans ma dissertation, donc que je pourrais caser un petit peu ici ou là.
Par exemple, toi, Léo, tu es en seconde, donc tu as encore pas mal de temps pour te préparer. Est-ce que tu lis beaucoup ?
Oui, je lis beaucoup.
Tu as l'impression de préparer déjà un petit peu le bac de l'année prochaine ? En lisant, rien qu'en lisant ?
Pas tout à fait, parce que en lisant, ça peut m'aider à comprendre les textes, même si c'est pas ce genre de texte que je lis le plus souvent, mais ça m'aide pas trop à préparer le bac. ce qui m'aide à préparer le bac, ce sont les cours de français, parce que les textes qui vont sûrement tomber au bac, on aura étudié des textes semblables à celui-là en cours.
Jean-Michel Maulpois, sur cette question, pensez-vous que la poésie soit une invitation au voyage? Comment est-ce que vous auriez traité le sujet?
Je ne sais pas, mais j'aurais mis l'accent sur le mot « invitation ». C'est pas l'idée que la poésie est un voyage, c'est que l'idée que la poésie nous convie à quelque chose, déclenche quelque chose, suscite quelque chose de particulier. Et ce voyage, je pense à la formule de Michaud qui dit quelque part, Henri Michaud, les poètes voyagent, mais l'aventure du voyage ne les possède pas. C'est dire que les poètes sont possédés par autre chose, qui est peut-être d'ailleurs un voyage dans ce que Michaud appelle l'espace du dedans. Et ce à quoi le lecteur est convié, c'est peut-être d'abord et avant tout un voyage en lui-même. Donc j'aurais orienté mon propos dans cette direction et je serais allé peut-être jusqu'à l'idée d'un voyage dans la langue. Finalement, parcourir un poème, c'est aussi parcourir un univers de langue tout à fait particulier, un objet, entrer dans l'intimité de cet objet.
Une question dans le public des lycéens.
Oui, bonjour, je m'appelle Rachel, je suis en terminale L. Alors, personnellement, je lis beaucoup de poésie parce que j'adore ça. Le problème, c'est que même si j'avais la méthodologie, j'ai surinterprété un texte parce que, étant donné que je connaissais un peu l'auteur, du coup, j'ai pensé que je pouvais... Enfin, j'ai péché par excès de confiance. Et de ce fait, avec 16 de moyenne en littérature toute l'année, je me suis tapé un 9 au bac, à l'écrit.
Alors, voilà. Marie-Sandrine Lamoureux, comme ça on pourra peut-être dire un mot aussi de la différence entre être un bon élève en général et de réussir cet examen en particulier qui est le bac de français.
Eh bien oui, ça arrive. On part pas à tout coup sur les notes qu'on a eues en classe. Mais il n'y a pas souvent d'énormes surprises, il faut le dire. Il n'y a pas souvent d'énormes surprises. C'est compliqué, si on n'a pas travaillé toute l'année, de réussir son bac. Et c'est compliqué de le rater si on a été consciencieux et sérieux toute l'année.
Et cette idée qu'on peut surinterpréter quand on connaît trop, c'est quand même un peu terrible.
C'est vrai. Non, mais là, par exemple, il y a Jean de la Ville de Miremont. Moi, je connais un petit peu son œuvre romanesque. On n'est pas du tout dans le même genre de texte. Donc, j'aurais sans doute été influencée par son récit de Jean Désert.
Alors, Marie-Sandrine Lamoureux, peut-être pour terminer, un rapide, très rapide corrigé.
Alors, d'accord, très rapidement, j'aurais proposé une première partie pour dire que la poésie peut être un voyage à la découverte de nouveaux horizons, hein, dans un petit train, un tramway, peu importe, que le dépaysement permet alors au poète et à son lecteur d'échapper au quotidien, parce que, comme dirait Mallarmé dans Brise Marine, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, fuir là-bas, fuir. Et que lorsque le poète revient de voyage, bien le temps s'est écoulé, il ne reste que de la nostalgie. On pense aux antiquités de Rome, de Dubélé. Dans une deuxième partie, comme le suggérait Monsieur Maulpois, j'aurais parlé du voyage sous forme d'invitation, de cheminement intérieur, du voyage allégorique, du cheminement de la vie, du voyage associé au travail du poète aussi. Du voyage à travers les mots que nous propose la poésie, qui invente autre chose, une autre manière de dire le monde, qui invente un langage. Je pense aussi, tu t'imagines de Queneau qui nous réécrit un blason sur un mode comique. Et puis enfin, dans une troisième partie, j'aurais dit que la poésie n'est pas forcément voyage au sens de déplacement, même si elle est toujours voyage intérieur. On peut penser aux poètes engagés, à des personnes comme Paul Éluard, René Char, Destos, qui ont dit l'horreur de la guerre ou de leur quotidien. Et puis, on peut penser à tous ces poètes qui s'intéressent aux objets, aux personnes autour d'eux, pardon, aux choses, comme Prévert dans La Grasse Matinée, ou comme, pardon d'y revenir, Jean-Michel Maulpois.
Non,
dans,
vous avez raison.
Ben voilà, dans Emma aimait le bleu. Et pourtant, nous dit-il, elle n'avait jamais vu la mer.
Merci beaucoup, Marie-Sandrine Lamoureux. Merci à tous. Et à présent, la poésie, Jacques Bonafé.
Holy, holy, holy.
Pour le plaisir, cette fois seulement, sans notes ni corrigées, Jacques Bonafé a choisi cette semaine des textes en lien avec les animaux.
Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour les plus grands. Cette semaine, la poésie est au bestiaire. Ils sont nombreux les poètes à s'être dégourdis de cette façon-là. C'est assez curieux, mais la baleine fraîche, c'est assez curieux, est un animal heureux. Il suffit qu'elle ouvre la gueule, qu'elle entr'ouvre ses fanons, pour que les crevettes, enchantées par sa baleine fraîche, se ruent en bancs entiers pour se faire goinfrer. Ainsi la baleine fraîche, qui ne crie point famine, porte-t-elle un mystérieux sourire aux heures de la nuit et du jour. On le voit bien sur les photos, elle bâille juste un peu chaque matin, chaque midi et chaque soir, quand l'appétit lui vient, dit Paul Fournel dans La Baleine Fraîche. On trouve aussi dans la même anthologie de l'Oulipo, ouvroir de poésie potentielle, des poèmes sur les animaux, des poèmes sur les chimères, ces animaux mythologiques fabriqués par Jacques Roubaud et Olivier Salon. Alors là, ça ne manque pas. Vous avez le sardinosaure, le rhinocérosignol, vous avez les hiboulots, les colibriques, la antilope religieuse, le sapinçon, le kiwistiti, le homard cassin, le cachalotari, l'escargot élan, le tigre-nouille, le viperroquet, la pie panthère, et plus énigmatique, le dernier, l'écrevisse. L'écrevisse à bois. Bon, alors là, c'est très court, mais je m'échappe et vais vers l'ours. L'ours écrit par Lucien Suel. Ours en paluche, ours mal dressé, par sa nounours, ours mal léché, par sa doudoune, l'ours à ses jours, l'ours à ses tours, l'ours à ses ours, il traîne sa casserole et son chariot dans le ciel d'encre, peau à vendre. Du même Lucien Suel, puma, puma qui mua, puma qui chua, fauve, chauve, cougar, bâtard, puma tu mues, puma tu pues. Pas mal, c'est pas mal du tout. On peut aller vers plus classique avec Apollinaire. Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses, à reculons. Bestiaire ou cortège d'Orphée, de Guillaume Apollinaire. Il y avait aussi, que j'aimais dans le bestiaire, Méduse, malheureuse tête, aux chevelures violettes, vous vous plaisez dans les tempêtes, et je m'y plais comme vous faites. Voyager avec les bêtes, dans leur monde, dans leur bulle, c'est bien le moins nous remue, dit Jean-Christophe Bailly. Le macareux de Lucien Suel. Petit moine, trottine dans le couloir du cloître, tu marmonnes dans ton bec la prière du macareux. Donne-nous le crustacé quotidien. Moignon moineau en habit de pingouin, ignorant de ton destin, macareux moine, mange poisson dans l'éternité, qui te mangera? Qui imposera le silence au macareux? Qui te changera macareux en macabée?
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
C'était Jacques Bonafé qui lisait des poèmes en lien avec les animaux. Un grand merci à Jean-Michel Maulpois, dont je rappelle que les derniers livres parus, La poésie à mauvais genre, c'est aux éditions Corti, c'est un essai, et puis également Le voyageur à son retour, des carnets de voyage aux éditions Le Passeur. Ces deux livres sont donc disponibles en librairie. Merci beaucoup Marie-Sandrine Lamoureux, professeure de français au lycée Julio-Curie de Nanterre. Merci beaucoup à tous ces élèves. On vous retrouve demain pour aborder cette fois le corpus de théâtre, toujours dans cette semaine consacrée à la préparation du bac de français sur France Culture. Ce sera en compagnie de Christine Montalbetti, qui était elle aussi au programme du bac, c'était cette fois en 2011. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Nicolas Delmas. Merci à Sophie de Lombarès, Pascaline Bonnet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook. Et si vous aimez cette émission, eh bien, partagez-la, ça nous fera plaisir. Dans un instant, Continent Science, Stéphane Delisgeorges sur France Culture.